Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kero.
Vos coups de cœur, vos coups de gueule sur les matchs d'hier soir. Fanny, on va commencer par toi.
Bravo à l'Australie. Ils ont bénéficié quand même de plusieurs concours de circonstances, on va dire ça comme ça. Le Danemark, j'ai pas compris. Jamais on aurait imaginé qu'ils finiraient dernier. C'est complètement fou. Après, la Tunisie peut avoir des regrets, mais en même temps, il faut marquer des buts pour aller en huitième et ça n'a pas tout à fait été le cas. Donc, c'est assez logique. Et puis après, à l'Argentine, je trouve qu'enfin, on a retrouvé une vraie équipe d'Argentine qui potentiellement peut aller loin. En plus, ils ont un huitième facile, du coup, on va pas se le cacher. Donc, un beau match hier de l'Argentine, vraiment séduite par cette équipe qui enfin a retrouvé de l'allant. Et voilà, vivement les huitièmes.
Bakan, ton coup de cœur, ton coup de gueule par rapport au match d'hier?
Hier, je vais être très honnête avec vous, j'étais en répétition toute la journée.
D'accord.
Donc, je ne vais pas pouvoir vraiment. Mais sinon, de façon générale, c'est vrai que l'Argentine, c'est mon équipe favorite depuis avant même le début de la Coupe du Monde. Même quand elle a perdu le premier match, hein, je n'avais pas changé d'optique. Messi, toujours, voilà, c'est. Extraordinaire, je suis toujours aussi fan de ce joueur, donc je garde mon pronostic pour cette Coupe du Monde. Je pense que c'est un peu écrit et je souhaite que, voilà, par rapport à la carrière qui est la sienne, même si évidemment je suis pour à 200% pour l'équipe de France, mais voilà.
C'est un peu comme Luis Enrique ou tous les autres sélectionneurs qui disent, en dehors de ma sélection, si je devais voir quelqu'un gagner, tout le monde a envie que Messi soit champion du monde en fait.
Ouais, je pense que, je sais pas pourquoi, je sens que c'est écrit comme ça et que l'Argentine va gagner cette Coupe du Monde, j'espère pas. Pour nous, mais je pense qu'on sera dans le dernier carré, nous, et que l'Argentine gagnera la Coupe du Monde.
Moi, ce qui m'a séduit dans l'Argentine hier, je ne sais pas si vous avez pu voir le match et regarder, mais c'est vraiment ce vent de jeunesse, j'en parlais tout à l'heure, mais Enzo Fernandez, il apporte quelque chose de plus à ce milieu de terrain. On l'a vu avec Benfica, nous, on le commente tous les week-ends sur RMC Sport, évidemment, et on a pu voir toute la place qu'il a prise déjà avec Benfica. Il avait été très bon contre le PSG en Ligue des Champions. Alvarez a apporté aussi de la profondeur. Ce qu'a plus de mal à faire Lautaro par exemple en attaque, et puis McAllister a eu de la réussite sur son but, mais il a apporté aussi quelque chose en plus par rapport à Papu Gomez. Un mot sur l'Argentine, Nathan, Loïc, Jean-Luc?
C'est ce que tu viens de dire, hein. C'est-à-dire que cette jeunesse argentine, la capacité aussi à l'entraîneur, hein, de faire des choix, hein. Et en plus ces choix ont été plutôt propice, hein. Et effectivement, on attend tous que Messi la gagne cette Coupe du Monde, parce qu'on est toujours en train de comparer Messi à Maradona, hein. Donc c'est ça, mais c'est bien parce que il y a Messi qui focalise toute l'attention des adversaires, et puis ça fait l'émergence de jeunes joueurs. On parlait de Benfica qui est une très très belle équipe. Faudra faire attention cette année, hein, en Champions League bien sûr, moi j'aime bien ce vent de jeunesse. Et puis c'est une Coupe du Monde, il va y avoir des révélations, et en l'occurrence les trois joueurs que tu as cités, c'est eux qui ont fait la différence hier.
Loïc, toi le fan de l'Inter, Lautaro, j'ai l'impression que ça va être compliqué vu la performance d'Alvarez hier, hein.
Ouais, mais ça m'étonne pas, hein. Comme je disais en fait, Lautaro c'est un très bon joueur, gros potentiel, mais pour moi il est pas encore un joueur fini, et c'est vrai qu'on l'a vu lors des deux premiers matchs notamment. Bon, après il y a son but qui est refusé effectivement pour hors-jeu, alors que bon, il semblait pas l'être. Et ça aurait peut-être changé aussi le cours des choses. Mais Lautaro en plus c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la confiance, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut vraiment faire des miracles quand il est bien, quand il se sent bien psychologiquement, et à l'inverse il a du mal parfois quand il est un peu en dedans. Je rappelle qu'avec l'Inter il avait traversé une très longue disette la saison dernière et qui avait justement fait pas mal parler, et du coup bon, je suis pas étonné de le voir sur le banc, et si l'Argentine fonctionne mieux comme ça, c'est tant mieux pour eux en fait.
On a ce sondage d'ailleurs sur la chaîne twitch.tv/rmcsport. L'Argentine va-t-elle être championne du monde? C'est mieux effectivement. 24% de oui seulement. Donc voilà, il y a ce côté favori, mais qui revient, mais très lentement quand même pour les Argentins. On va accueillir Renaud au 32-16 touche 9. Salut Renaud.
Oui, bonjour messieurs.
Soulagé, le supporter de l'Albi Céleste que tu es?
Eh bien oui, je suis soulagé. Alors en général, je les mets toujours perdants par superstition,
parce
que quand je soutiens une équipe, elle perd.
Donc, mon pauvre. Collègues...
C'est... Je vais vous barrer avec mes collègues, mais en même temps, je suis content de perdre, si vous voulez. Ah. Je suis ravi de la prestation de l'Albi Céleste, effectivement, hier, où Lionel Scaloni a procédé à quelques changements, effectivement, assez pertinents, avec un vent de fraîcheur, avec les joueurs que vous avez cités, Julian Alvarez, McAllister, dont le papa était également international il y a très longtemps.
Oui, pour l'Argentine.
Et donc, ils ont produit du jeu, on a senti quand même beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. Voilà, il y a une forme de souffrance parce que la phase de poule a été assez difficile avec ce match perdu contre l'Arabie Saoudite. Et puis ensuite, paradoxalement, malgré la victoire contre le Mexique lors du deuxième match, j'avais trouvé quand même le niveau de jeu et la qualité assez moyenne. C'était assez brouillon, mais là, on a trouvé une équipe plutôt impliquée. J'ai même trouvé Di Maria plutôt pas mal aussi. Donc, c'était quand même collectivement une très, très bonne prestation. Alors, évidemment, j'espère qu'ils iront le plus loin possible. Et bon, l'Australie, il faudrait quand même se méfier parce que je trouve que l'équipe est plutôt costaud d'un point de vue défensif. Mais l'Argentine, avec un peu de détermination, il lui faudra marquer un but ou deux buts. Et je pense que ça peut passer. Je voulais rendre hommage à Daniel Riolo, pour qui j'ai beaucoup de respect et je l'ai trouvé formidable hier encore une fois de plus, j'allais dire, dans l'after. Mm-hmm. Il a témoigné de son affection pour l'Argentine et je voulais le remercier vraiment très chaleureusement parce qu'il a dit que finalement ce serait beau que l'Argentine soit championne du monde parce que eu égard à la passion du football qui émane de ce pays et également le côté romantique, le romantisme des Argentins vis-à-vis du football et cette passion, ce serait beau qu'il soit champion du monde, donc je voulais aussi le remercier pour les très très gentils propos qu'il a pu tenir hier dans notre indispensable after national.
Merci beaucoup Renaud d'être venu au 36, on parlera de l'Argentine demain dans les grandes gueules avant le 8e de finale.
Et puis j'en profite pour évidemment soutenir le voisin uruguayen qui va avoir un match très très difficile contre le Ghana, en espérant aussi que l'Uruguay puisse se qualifier.
Je ne suis pas sûr que tous les supporters argentins soient derrière l'Uruguay aujourd'hui, en revanche. Mais bon, c'est bien d'être... Tu me diras, Scaloni a dit aussi hier en conférence de presse que quand le Brésil jouait et que l'Argentine n'était pas engagée, il était aussi pour les nations sud-américaines. J'ai trouvé ça aussi surprenant, mais sympa. Tiens, on nous dit qu'on surcote trop l'Argentine sur Twitch, sur le stream, sur la chaîne RMC Sport. Sony qui nous dit ça notamment. On en reparlera demain. Donc, des Argentins. Nathan, coup de cœur d'hier.
Alors, comme j'ai été très sympa avec les Bleus, j'ai plutôt un coup de gueule. Ah. Moi, c'est plutôt le Danemark, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, oulala, attention avant la Coupe du Monde, attention le Danemark, on les a pas battus depuis 2015, c'est notre bête noire. J'ai pas vu grand-chose, en fait. C'est-à-dire que match nul contre la Tunisie, défaite contre nous, incapable de battre l'Australie. Alors, évidemment, on donne des explications ou on cherche des excuses selon le point de vue, selon là où on se place. Mais le contexte, les bisbilles avec la fédération sur tout ce qui est politique, je veux bien, ça joue forcément les tensions, mais à un moment donné quand on est joueur de foot et que c'est la Coupe du Monde, la politique, qu'on rentre sur le terrain et qu'on a l'Australie face à soi, on doit gagner le match pour aller en 8e. Et donc pour moi, énorme flop et énorme coup de gueule contre cette équipe qu'on annonçait vraiment terrifiante.
Demi-finaliste du dernier Euro. Loïc, ton coup de cœur ou ton coup de gueule?
Comme Nathan, c'est plutôt un coup de gueule, mais moi c'est plutôt pour le Mexique. Je trouve que c'est très décevant de les voir sortir dès la phase de poule, et c'est déjà quelque chose qui n'arrive pas souvent, puisque la dernière fois que ça leur est arrivé, c'était en 78, ils restaient sur 8 qualifs consécutifs quand même pour la phase d'élimination directe. Et au-delà du romantisme, c'est vrai que le Mexique en Coupe du Monde, ça évoque les maillots colorés de Jorge Campos, le gardien miniature, la crinière blonde de Luis Hernandez, ou le fameux coup du crapaud de Cuauhtémoc Blanco, hein, quand il mettait le ballon entre ses jambes et qu'il sautait entre les adversaires. Donc c'est vrai que Mexique en Coupe du Monde, c'est toujours des belles histoires.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est souvent mythique, et là ils repartent avec rien, il n'y a pas d'émotion, il ne s'est rien passé, quoi.
Exactement, et surtout en fait tu te dis, là les supporters mexicains étaient limite contents que Tata Martino quitte son poste, de toute façon c'était prévu ainsi. Et c'est vrai qu'on l'avait un peu vu venir aussi cet échec, puisque ça fait 2 ans que le Mexique galère. Ils avaient perdu la finale de la Gold Cup contre les États-Unis, il y a eu aussi des blessures, l'absence de Jesús Corona par exemple, le le fait qu'il n'ait pas pris Javier Hernandez ni Santiago Jiménez, la petite pépite du Feyenoord. Mais au-delà de ça, au-delà de toutes ces choses-là, c'est le jeu en fait. Tata Martino, ça, quand on y pense, c'est le jeu offensif. Il a quand même été au Barça. On sait qu'avec aux États-Unis, il a aussi gagné le titre avec Atlanta, un jeu porté vers l'avant. Et là, franchement, le Mexique, ça a marqué. Enfin, ça n'a pas marqué, à part hier, mais c'est encore un exploit individuel, c'est un coup franc direct notamment. Et donc vraiment, ouais, cette sensation qu'ils sont juste venus faire un petit coucou et puis qu'ils repartent à Mexico un peu la queue entre les jambes, et qu'il y a beaucoup de taf pour voir une équipe du Mexique qui nous fasse un peu, pas rêver, mais au moins qui nous donne de la couleur comme les années précédentes.
Jean-Luc, tu as quelques secondes pour me donner ton coup de cœur d'hier, si tu en as un.
Oui, bien sûr, l'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite.
Mais pas par rapport au match d'hier, sur l'ensemble de la compétition. Et puis effectivement, j'ai trouvé très structuré, pas trop mal physiquement, même si ils ont quand même quelques blessés, quelques absences, et puis avec cette capacité de ne pas renouveler. Et puis ouais, souligner le travail des Français, d'Hervé Renard et de tout son staff, parce que
Laurent Bonadéi, Philippe
Sans. Voilà, exactement, parce qu'ils ont ils ont fait du boulot et c'était très cohérent, voilà.
Ouais, Hervé Renard qui a amené le Maroc à la Coupe du Monde 2018 et l'Arabie Saoudite à la Coupe du Monde 2022. Maintenant, son prochain défi, c'est de trouver une sélection qu'il peut emmener en huitième de finale.
Oui, mais ça, il va le trouver, vous inquiétez pas. Hein.
Bravo à lui, en tout cas, c'était moi aussi mon coup de cœur pour Hervé Renard. Bravo notamment pour cette victoire face à l'Argentine, une victoire historique, l'une des plus grandes surprises, tout simplement, de l'histoire de la Coupe du Monde. Les grandes gueules reviennent dans quelques minutes maintenant, juste après les infos de midi. On va parler de l'adversaire de la France en huitième de finale, de la Pologne. On vous attend au 32-16, touche 9. À tout de suite.